Donc, un roi de chair et de sang, il se fait d'abord acclamer, puis après il fait les choses. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait le contraire, il a fait les choses, et seulement après, il s'est fait encenser, louer, etc. Shimon ben Azai Omer, va notre tarbeni. Ta anava, elle me grandit, ou elle me. Oui, quelque chose comme ça. Elle m'augmente, en fait, ça veut dire. Basar vadam maskir shmo ve'arakar shifcho plan agustolei plan pratata, je ne connais rien. Avala kadosh baruch hu enoken ela mi shebara tzorche olamo acharkar maskir shmo bereshit bara ve'arakar elokim. Donc, cette partie ce Midrash, là, ce chapitre, ce paragraphe de Midrash, il est construit sur le fait que il faut pas lire Bereshit bara Elohim, ça veut dire d'un seul trait, Bereshit bara, puis ensuite Elohim. Ça a l'air un peu Bereshit bara, si on dit Bereshit bara, on sait pas qui a fait quoi, donc. C'est un peu compliqué de dire que Elohim c'est une louange ou se fait reconnaître ou etc. Alors bon, ce qu'on pourrait dire c'est on aurait pu dire Elohim bara bereshit. Elohim a créé au début. Donc on aurait dit d'abord son nom, d'accord. Alors on aurait dit par opposition à Louis XIV. Bon, il a fait Versailles, voilà. Louis XIV a fait Versailles. Il se fait d'abord appeler Louis XIV, et après on dit il a fait Versailles. D'accord ? Et l'élève Abdalot, à Kadosh Baruch Hu, il dit pas Elohim bara, Shamayim Baaretz, mais Bereshit bara Elohim. Le nom, il est né après, il est dit après. Bon. C'est pas tellement évident, si vous voulez, que ce soit dit en termes de. Au départ, on parle de louange, le mitkales, et après, on parle de son nom, Maskir Shemo. C'est pas exactement la même chose, Maskir Shemo et les louanges. Dire son nom et dire des louanges, c'est pas la même chose. Surtout que Elohim, si on l'avait appelé Hanoun ou Rahoum, alors. On aurait pu dire, c'est une façon de dire de la louange, si on avait dit qu'il est miséricordieux, ou qu'il est généreux, ou etc. Mais là, c'est Elohim, c'est le puissant, quoi. Elohim, c'est la puissance. Amidat Adin, c'est la Gvoura. Alors, c'est ce que vous avez Rabbi Shimon ben Azai, lui, il parle de dire son nom. Donc, si vous voulez, vous avez deux enseignements qui sont construits presque de la même manière. Simplement, un met en évidence le côté se faire acclamer, et le deuxième, il met en évidence seulement dire son nom. Ok ? Donc, c'est ça, là, semble-t-il, les deux parties de cet enseignement. Alors, d'abord, ça commence par Rav Yudan qui dit d'abord, lui, il convient de l'appeler Eloka. À celui-là, le cavalier, la formule. La formulation est un peu cavalière. Hein, celui-là, il convient de l'appeler. Il l'appelle celui-là. D'accord ? Merci. C'est un peu cavalier de user, celui-là. Il parle d'Hachem. Celui-là, il convient de l'appeler Eloka. Pensez un peu. Alors, pourquoi est-ce qu'il convient de l'appeler Eloka? D'accord, parce que il a fait les choses avant d'être avant qu'on dise sa gloire, avant que avant qu'on le loue. Premièrement, où est-ce qu'on voit on voit pas de louange? Où est la louange? L'itkales, kilos, c'est une louange. Où est la louange? Quand Ben Azaï dit son nom, là on comprend. Elohim, c'est son nom, c'est un de ses noms. Mais où est la louange ici? Et maintenant, nous, on juge qui il convient d'appeler Eloka. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on l'appellerait Eloka? Parce que il a fait avant qu'on ne dise sa louange. D'accord? Il n'a pas dit qu'il convient de l'appeler d'un nom qui serait une louange, de le louanger, parce que lui, il a montré qu'il était très modeste et qu'il ne recherchait pas les louanges. Il a commencé par faire et ensuite il aurait accepté les louanges. Mais c'est pas de ça qu'il il parle pas de la même chose. Rabbi Yodan, lui aussi, parle du nom. Na'el Kar'o Eloka. Il convient, lui, c'est bien, c'est beau, de l'appeler Eloka, de l'appeler, je vais dire Dieu, disons pour ça, d'accord, l'appeler Elohim. Et pourquoi? Parce que Meler Basar Vadam mitkales bamdina ve'adayen lobana. Il est déjà loué dans son pays alors qu'il n'a encore rien fait. Il n'a pas encore fait les choses qu'il faut faire. Et donc, mais il dit au départ maskirin shmol basof katizna shelo. Bon, tout ça c'est grec ou je sais pas quoi, quelque chose de Atizna, ça veut dire ici Shvacho, dit le Etz Yosef. Il dit c'est un peu compliqué parce que dans l'argumentation, on retombe sur ce que dit Ben Azaï. Naza, il n'y a pas d'unité dans ce que dit Rav Yudan. Il parle d'abord d'Eloka, et après il parle donc de la louange, qui précéderait les raisons pour qu'on pourrait avoir de dire sa louange. Et pour ça voudrait justifier qu'on l'appelle Eloka. Qu'est-ce que ça veut dire Eloka? C'est quoi Eloka?
C'est peut-être pas la louange, Eloka.
Non, mais l'itkales, c'est justement. Non, Eloka, c'est justement. Eloka, c'est pas une louange. Ah oui, alors, puisque c'est pas une louange, pourquoi il apporte une preuve qui est construite sur la louange qui aurait précédé l'action? En français, c'est bien dit comme ça aussi. Il se fait acclamer avant d'avoir fait quoi que ce soit. Alors que Rabbi Yehuda dit, lui, il sied de l'appeler Dieu. Pourquoi?
Mais on dit pas aussi que les puissants, c'est des Elohim aussi?
Oui, oui, tout à fait.
Et donc peut-être que c'est un Elohim différent des autres Elohim.
Si c'est comme ça, il serait différent des autres Elohim. Enfin,
oui, c'est ouais. Ça, des autres Elohim, pardon.
Oui, mais ok. Mais ça n'explique pas pourquoi l'argument qu'il donne, c'est l'argument de Ben Azaï qu'il donne.
Oui, la même chose sur le point commun, Ben Azaï.
C'est un peu compliqué là, on n'arrive pas à se dépêtrer en quelque sorte de ce qu'il dit là.
dit là, c'est là. Donc, lui,
il de ce dit, que dit Rav Yudan, on lui, comprend
il faut,
pas.
Il faut l'appeler Elohim. Mm-hmm. Les rois, on les acclame et après on les appelle rois.
On leur donne leur. Oui, d'abord on les acclame, on ne donne même pas le problème du titre. Voilà.
Et après, il revient sur Elohim en disant que lui, c'est le contraire. Il agit, après il se fait acclamer ou ranger.
Oui. Alors, si on essayait de dire que pour Rabbi Yudan, bon, si on le prend à la lettre, il dit qu'il convient de l'appeler Eloka. Donc d'après ça, qui est-ce qui convient d'appeler Eloka? C'est celui qui fait quoi? Qui fait montre,
qui
montre d'abord, et aussi vous voulez, qui fait d'abord des choses pour les gens, avant que les gens. Mais là, lui, il se fait acclamer, comme. C'est-à-dire, on applaudit d'abord avant qu'on applaudisse son nom, finalement, alors qu'il n'a encore rien fait. D'accord? Et on applaudit déjà, il se fait déjà applaudir.
Mais pas Elohim.
Non, le roi de chair et de sang se fait acclamer avant d'avoir fait quoi que ce soit.
Ouais.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, lui, il ne se fait pas acclamer avant d'avoir fait quoi que ce soit. Il se fait acclamer qu'après. Mais l'acclamer, d'après Rav Yudan, ça veut dire quoi? L'appeler Eloka. Parce que si tu enlèves la première phrase, tu comprends rien du tout. Rav Yudan, il explique sa première phrase, ça veut dire le Zé, lui, comme ils ont traduit, il sied l'appeler Dieu. Et pourquoi donc? Oui, alors, bon. Bon, bien que ce ne soit pas marqué Melech, ici, que ce soit Elohim. Elohim, c'est plutôt la Midat Hadin que. Alors, on pouvait dire que c'est une forme de Malchut, mais a priori, Elohim, ce n'est pas la Malchut. Par exemple, dans une bracha, on dit Hachem, Elohim, enfin, Hachem, Elohimu, quoi. Et puis ensuite, Melech Haolam. Donc, Melech, c'est c'est pas inclus dans le fait qu'il est Elohim.
Ce que vous voulez dire, c'est que la loi.
Voilà. Lui, il convient de l'appeler Eloka. D'accord? Parce que il a fait avant d'être acclamé, si on va dire comme ça. Si on dit que l'appeler Eloka, c'est déjà l'acclamer. Donc avant de. C'est ça que j'ai un peu ennuyeux, mais bon. C'est ça. Lui, il se ferait donc. Alors, le roi se fait acclamer, le roi de chair et de sang, se fait acclamer avant d'avoir agi. Et d'une certaine manière, d'après ce que Rabbi Yudan dit, à la limite, lui, on ne pourrait pas l'appeler Eloka. D'accord? Parce que on peut pas le. Si on dit que Elohim, c'est la Midat Hadin, c'est la puissance, disons, comme tu veux dire toi, on ne peut pas dire le puissant, on n'a rien vu de sa puissance.
Non, mais dans les.
Non, je parle du roi de chair et de sang.
Mais dans la.
Le roi de chair et de sang, il se fait acclamer, mais qu'est-ce qu'on acclame?
Oui, mais dans Bereshit et dans. Il ne s'est pas dévoilé tout de suite.
Bon, justement, ça, on va voir. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on dit, c'est que le roi en question, il est acclamé. Qu'est-ce qu'on clame? Qu'est-ce qu'on clame?
Le roi, vous voulez dire
le roi de chair et de sang.
Le roi,
ouais. Qu'est-ce qu'on clame quand il arrive?
En fait, c'est la même différence entre pouvoir et pouvoir, entre pouvoir substantif et entre pouvoir.
Le problème de Rabbi Yudan, quand il dit, lui, il convient de l'appeler Eloka, est-ce que le roi de chair et de sang, il demandait qu'il appelait Eloka? Dire, celui-là, il convient de l'appeler comme ça. Mais on dirait ça parce que. Il y aurait d'autres candidats à être appelés comme ça, qui eux ne le méritent pas. Lui, il convient. On dit, David Ameler, il dit, le Chanaé Leodot, toi, il est bien, il est convenable, c'est adéquat de dire ta louange. D'accord? Ça, on comprend, parce qu'avec tout ce que tu as fait, Nae, c'est. On le dit dans la Shemoneh Esrei aussi, le Chan Nae le Odot, ça veut dire. Toi, mais c'est on entend, c'est toujours par rapport à d'autres qui voudraient être appelés aussi comme ça, ou qu'on pourrait penser qu'ils sont aussi des candidats à porter ce nom-là aussi. Et Rav Yehuda, il dit, lui, il convient de l'appeler comme ça. Sous-entendu, les autres, pas du tout. Les autres, on ne peut pas les appeler comme ça. Mais est-ce qu'ils ont jamais revendiqué d'être appelés Eloka? C'est qui? C'est les rois qui se prennent pour Dieu? Ça, c'est quoi? C'est des paros. Paro qui se prend pour Dieu, ou il y en a d'autres, et ils ne le disent pas toujours. D'accord? Il y en a qui se prennent pour l'État. L'État, c'est moi. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ne le disent pas. Staline, il se prend pour le père des peuples. Il se prend. L'autre, il est le guide. Ils ont tous des noms un peu comme. Qui seraient comme Eloka, en quelque sorte. Et en fait, tous leurs noms se sont usurpés parce que on ne peut pas les appeler comme ça, ils n'ont rien montré. Ils n'ont encore rien fait. Et ils se font déjà appeler comme ça, on ne sait pas pourquoi, parce que éventuellement, ces rois-là, ils sont rois de droit divin, c'est-à-dire ils sont rois parce que leur papa était roi. Donc voilà, c'est ça. Et ils n'ont rien fait du tout, mais. Alors que ce qu'on veut mettre en avant, c'est finalement, ce qui est vraiment mis en avant, c'est ce que dit le pasouk qu'utilise Ben Azaï, qui dit, on traduit par « ta modestie m'a grandi ». C'est-à-dire la modestie divine, en fait. D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a grandi, en fait ? Pourquoi est-ce que Shmuel, pourquoi est-ce qu'ici on s'entend, on entend que la modestie d'Hachem a grandi, elle a grandi qui d'ailleurs? Bon, c'est quoi le sujet, celui qui parle dans ce,
on sait pas qui est-ce qui parle,
dans ce verset? Si, si, on le sait, et on va aller regarder d'ailleurs dans le pasouk pour bien vérifier. C'est un cantique que David HaMelech a prononcé lorsqu'il a été délivré de la main de Shaoul. Shaoul voulait le tuer, donc il n'est pas encore roi David ici. Mais il a chanté pour Hachem parce qu'il a échappé à ses ennemis et il a échappé aussi à la main de Shaoul. Alors il dit... Oui, ils ont traduit autrement. Tu me prêtes le bouclier de ton secours, ta bienveillance fait ma supériorité. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, ta modestie, c'est-à-dire le fait qu'Hachem se soit quasiment mis au service de David, c'est ça qui a fait que David était supérieur à Shaoul, etc. Parce qu'Hachem l'a aidé. Donc, c'est ça qu'il veut dire ici. Ta modestie, le fait que... tu te mets au service des hommes, quelque part. Là, en l'occurrence, tu t'es mis à mon service, tu m'as aidé. Alors que, normalement, Hachem... Bon, on ne ressent pas qu'Hachem va se mettre à son service. C'est comme ça que David Omer l'a reçu. Il reçoit la chose comme ça. Il dit donc, je suis grand, plus grand que Shaoul et les ennemis, mais parce que toi, tu t'es mis à mon service. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ça met l'avant... Ça met l'accent sur la modestie, sur la anava de Akadosh Baruch Hu qui se met au service de David. Et donc, lui, il va expliquer que l'être de chair et de sang qui mentionne d'abord son nom et ses titres ensuite, il s'appelle un tel le Grand, Alexandre le Grand, ou je ne sais pas, ou Napoléon Ier, ou un truc comme ça, d'accord ? Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas comme ça, hein. C'est après avoir pourvu aux besoins du monde qu'il mentionne son nom. C'est merci Bereshit Bara. Au début, il a créé. Seulement après, il est appelé Elohim.
Il y a quelque chose que je comprends pas trop dans la réflexion, parce que ici, dans le texte.
Ben, c'est une forme de reconnaissance quand on l'écrit comme ça. C'est-à-dire que la première chose qui nous est présentée au moment de la création du monde, d'accord, c'est même pas Hachem qui se présente, d'accord, c'est Hachem se donne à voir au moment de la création sur le mode Eloka. Il nous montre sa puissance. Hachem a décidé d'écrire la chose, on aurait pu écrire Bereshit Baraya Hachem. Alors nous on accepte ce qui est marqué dans ce texte, et c'est pour ça que Rav Yudan veut dire que pourquoi c'est écrit comme ça, pour nous dire que vraiment la louange Elohim, elle lui convient vraiment, parce que il y a lieu de l'appeler Elohim, de mettre en avant la Gvoura, parce qu'il a commencé par créer. Il a créé, puis ensuite, ben on peut dire, voilà, ou Bara, top, on peut l'appeler Eloka.
Son œuvre le précède avant d'être dénommé. En
fait. Pardon ?
Oui, son œuvre le précède avant d'être nommé.
Oui, justement, donc, cette œuvre-là, elle montre qu'il est Eloka. Elle montre Hachem dans son rôle d'Eloka, si vous voulez.
L'orgueilleux, il met d'abord en évidence ce qu'il fait, et après il se lève.
Alors ça, c'est le problème de la modestie et de l'orgueil, c'est la deuxième lecture, c'est la lecture de Benazai. Benazai dit non, c'est pas comme tu dis. C'est pas qu'il convient de l'appeler Eloka pour cette raison. La raison pour laquelle il a mis ce terme d'Elohim seulement après la création, c'est une manifestation de la Nava divine. Alors, il nous montre la voie que c'est quand même la première leçon que la Torah nous donne, c'est une leçon de modestie. Quand on dit qu'Hachem est modeste, ça ne veut pas dire qu'il est modeste, ça veut dire que pour nous, on doit savoir que la mida la plus importante, c'est la anaba, c'est la modestie. Et toujours pour nous, tout ce qui est dit sur Hachem, on n'est pas en train de dire des choses sur Hachem.
Et tout ça parce qu'il est en troisième position.
Voilà, oui, parce qu'il est, oui. Parce qu'il n'est pas dit en première position, c'est...
Parce qu'il est après Bara.
C'est la modestie.
Il est après Bara.
C'est la modestie en tant qu'il accepte de se mettre au service.
Bon, la modestie, c'est justement, dans le verset, là, David Ameler, lui, met en avant cette modestie sous forme de... En quoi est-ce qu'il y a une modestie? C'est que tu m'as grandi. Alors, des fois... Yaakov Avinu, quand Hachem se manifeste tellement fortement à lui, il ne dit pas « tu m'as grandi ». Il dit « katamti mikol hachasadim ». Tu m'en as tellement donné que je suis complètement écrasé. Tu m'en donnes trop. D'accord ? C'est ce que dit... Mais le Gaon de Vilna dit que ce verset-là de « katamti mikol hachasadim », d'accord ? C'est le huitième verset de la huitième paracha de la Torah. Et lui, il explique que quand la Gemara dit que l'orgueil, c'est une mauvaise chose. Néanmoins, dit la Gemara, il faut avoir un huitième de huitième d'orgueil. Et c'est pas que la Gemara ne savait pas faire la multiplication, c'est que ce soit le huitième de huitième. Arrive le Gaon de Vilna, il dit, on doit avoir le huitième de huitième d'orgueil, c'est-à-dire dire katonti mikol hachasadim. Ça, c'est l'orgueil de Yaakov Avinu qui dit, mais tu m'en donnes tellement que tu m'écrases. Donc, c'est de l'orgueil. De se laisser écraser par Hachem, il reproche à Hachem, en quelque sorte. Ne m'en donne pas tellement, tu m'écrases. Il faut quand même me laisser vivre. J'ai besoin que tu me laisses vivre un petit peu, parce que sinon, je suis complètement écrasé, donc je n'existe plus du tout. Donc, à la limite, même pour ton projet du monde, d'avoir un homme qui reconnaisse Hachem, si tu m'as écrasé, je ne te reconnais pas. Je suis complètement écrasé. Il n'y a personne pour reconnaître Hachem. D'accord ? Il faut être le grand devina pour voir ça, mais. Donc c'est ça l'histoire de la Cotonti.
Ça se comprend quand même que le mot Richard Barra, il est bien au service, d'une certaine manière, il accepte de se mettre au service.
C'est-à-dire le monde.
Sa place, la création dans
et pour l'homme.
D'être pour l'homme, là,
ouais, c'est ça.
Dans le sens de David.
Ah oui, c'est ça l'idée. Donc ici, dans ce début-là, c'est bien de l'appeler Loka, qui veut. Bon, ça c'est Rav Yudan, mais Rav Ben Azai dit non, il ne faut pas le voir comme ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de regarder qu'il est en troisième position, enfin il est pas, il s'est pas mis en première position, et c'est une expression de la modestie divine, et ça nous donne une idée du monde. Ça nous définit le monde. Le monde comme étant un monde pour l'homme. Par ailleurs, Hachem dit, moi, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour moi. D'accord ? Mais même quand il dit ça, le pour moi, c'est, je l'ai créé pour que vous me reconnaissiez, et que c'est ça qui est bien pour vous. Parce que si vous faites ça, vous avez fait ce pourquoi j'ai créé le monde.
Dans cette partie du Midrash, le mot Bereshit, il n'y a pas de rôle. Hein. C'est surtout le fait que Elohim soit passé après.
Il parle d'Elohim seulement, oui, c'est ça.
C'est-à-dire que si Elohim avait été écrit en premier, donc.
Alors ça dépend si d'après Rav Yudan ou d'après Ben Azai. D'après Rav Yudan, effectivement, le fait qu'il ait mis son nom ensuite, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à être acclamé sur son nom seulement. Il a été acclamé parce qu'il a fait les choses. On a des raisons de l'acclamer. Il ne vient pas en disant c'est moi, acclamez-moi. Comme un roi dit, faut reconnaissez-moi comme roi, et c'est tout parce que je suis le fils du roi, ou parce que j'ai plus d'argent, ou parce que j'ai plus d'armée, etc. Donc je suis le roi. Donc, mais j'ai encore rien fait pour vous.
Mais d'après Rav Yudan, c'est comme s'il mettait sur le même plan les actions des rois et les actions d'Hachem, alors que le simple fait qu'il est le créateur du monde aurait suffi déjà à nous pousser à.
Oui, non, mais lui, il a l'air de vouloir justifier la louange. Il a l'air de dire qu'il y a un problème de louange. Les rois veulent recevoir une louange avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il ne fait pas comme ça. D'abord, il fait, il justifie la louange. C'est comme s'il ne nous demandait pas de chèque en blanc. On peut me reconnaître, disons, dans la Torah, on peut me reconnaître parce que je suis d'abord le créateur. Je suis le créateur et donc vous pouvez m'appeler Eloka. Et pas, ce nom d'Eloka, il ne vient pas dire je l'ai avant même d'avoir construit le monde. Même l'idée d'un nom est un problème, mais en tout cas, une louange, au sens de façon d'acclamer, de dire sa louange, ça n'a vraiment pas de sens si. Enfin, c'est ce que d'après la Torah, on considère ça comme ça. Ça n'a pas de sens si on n'a pas des bonnes raisons de le faire. Alors, les rois de chair et de sang, ils pensent que c'est moi. Alors, pour moi, c'est déjà. À moi tout seul, je suis une raison pour qu'on m'acclame. Et Hachem dit non. Et c'est, de ce point de vue-là, c'est presque une introduction à ce que va dire Ben Azai. C'est déjà aussi de la modestie de dire que je ne demande pas à être acclamé avant même que j'ai fait mes preuves, en quelque sorte. Bon, c'est aussi un problème de modestie. Il ne dit pas acclamez-moi comme ça. D'abord, je vous montre quelque chose qui est digne d'acclamation, qui est digne de. Qui justifie que vous m'appeliez Eloka. Certains disent que c'est même un guerre un parent de Néron, certains disent. Et donc, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que les rois. Il a expérimenté la vie des rois. C'est pas quelqu'un qui. Comme si Rabbi Yudan lui-même, il peut pas le dire avec autant de force qu'Aquilas. Aquilas, il en vient. il sait de quoi il parle. Tandis que Rabbi Yehuda, il le pense comme ça, mais c'est plus fort parce qu'il le dit au nom de quelqu'un qui sait ce que c'est que la royauté des rois de chair et de sang. Ok, on va passer au suivant. Tana, donc, Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai enseigne, Minayin shelo yomar adam l'Hashem Ola, ou l'Hashem Mincha, ou l'Hashem Shlamim, Ela Ola l'Hashem, ou bien Mincha l'Hashem, Shlamim l'Hashem. Talmud Loma, d'où est-ce qu'on le sait? Parce que la Torah elle-même, elle dit Korban l'Hashem. והרי דברים קל וחומר. ומה אם מי שהוא עתיד להקדיש אמרה תורה לא יחול שם שמיים להקריב? אז המחרפים והמגדפים והעובדים עבודת כוכבים על אחת כמה וכמה שימחו מן העולם. רבנן אמרן בשר ודם בונה בניין, בשעה שהבניין עולה בידו, הוא מרחיב ועולה. ואם לאו, מרחיב מלמטה. ומצד מלמעלה, ומצער למעלה, מלמעלה פרמו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא את השמיים, שמיים שעלו במחשבה, ואת הארץ, ארץ שעלתה במחשבה, רבונה בשם רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אמר אפילו אותן שכתוב בהן כי הנני בורא שמיים חדשים כבר הן ברואים מששת ימי בראשית עדה ודכתיב שסקי קרידון פסוק לבא justement כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה הארץ חדשה אין כתיב כאן זאת אומרת הארץ חדשה אלא החדשה La nouvelle, celle dont on a déjà parlé. Ah, une certaine, le « hea yedia », très bien. C'est référence à quelque chose de connu. Bon, alors là ici c'est beaucoup de choses. Alors le début, c'est un enseignement qu'on connaît beaucoup dans Maseret Nedarim. Quand quelqu'un veut donner quelque chose à Hachem, on pourrait penser que le kavod d'Hachem, ce serait de dire son nom en premier. C'est pour Hachem, un holocauste. Pour Hachem, un shlamim. Pour Hachem. D'accord? Et la Gemara, elle dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le Midrash dit ça aussi. Il dit, il faut dire un holocauste pour Hachem. Il faut dire d'abord le korban et ensuite mentionner le nom d'Hachem. Pourquoi? A priori, on devrait dire on entend mieux qu'il faudrait dire d'abord, je dis d'abord c'est pour Hachem, je vais ouvrir ma bouche sur, après un pour Hachem. Alors qu'est-ce qui pourquoi il faut pas le pourquoi on veut pas dire cette chose-là de, cette, dans cet ordre-là? Alors parce qu'on a d'abord on a dans la Torah un exemple. La Torah elle-même elle dit que si quelqu'un veut apporter Korban l'Hachem. Donc la Torah elle-même, elle dit d'abord Korban et seulement après le nom d'Hachem. Donc ça c'est une première raison, c'est la bonne raison en fait, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est quoi le problème? C'est que il y a un risque que finalement s'il arrive quelque chose qui fait que on n'arrive pas à finalement on ne peut pas dire le mot Korban. Donc on aurait prononcé le nom d'Hachem pour rien. En vain. Posez même, ou même si quelqu'un meurt après avoir dit le mot d'Hachem, il a utilisé le nom d'Hachem pour rien du tout. Et donc on veut d'abord dire Korban l'Hachem. Et donc, pourquoi on veut... Quel problème? Parce que sinon, il y a une espèce de profanation du nom divin s'il est proféré en vain. Bon, s'il n'est pas appliqué à ce qu'on voulait dire, que c'est un corban pour Hachem, alors on aura dit seulement l'Hachem, qui après, pour une raison ou une autre, on n'a pas pu dire un corban. Alors on aura dit le Shem Hachem en vain, donc c'est une profanation. Et donc le texte dit, pour ce qui est dit en français, on peut faire un raisonnement par Kabachomer. C'est quelqu'un qui s'apprêchait et qui s'apprête à apporter un corban pour Hachem, il va amener un corban. La Torah lui dit, non, tu ne dois pas profaner le nom d'Hachem en le disant avant le sacrifice. Alors ça veut dire que les gens, les imprécateurs, les blasphémateurs et les idolâtres, eux, ils vont être aussi effacés du monde, puisque profaner le nom d'Hachem, quelque part, ça entraîne peine de mort, en réalité. Donc c'est comme si, en fait, profaner le nom d'Hachem, c'est comme si on effaçait le nom d'Hachem. On l'a dit pour rien, donc c'est comme si on l'avait effacé. Donc maintenant, ceux qui, concrètement, dans leur démarche, vont justement utiliser le nom pour la profanation, comme dans un blasphème, ou dans une malédiction, alors évidemment qu'eux aussi ils seront effacés, c'est ça le raisonnement qu'Alba promet. Alors peut-être que... Bon, alors pour comprendre la chose, la suite, c'est marqué donc « Bereshit bara et hashamayim v'et haaretz ». Donc il a créé le ciel et la terre. Mais les Chachamim ont dit... Quand Hachem a créé, il a créé le ciel et la terre. Donc c'est une espèce... Quand un homme construit un édifice, si ça marche bien, alors il peut... si c'est bien stable, alors il va pouvoir... en haut de l'édifice, il pourra continuer de lui donner toute sa largeur à l'édifice. Mais si ça, il sent que ça ne marche pas, ce n'est pas complètement stable, alors il faudra qu'il en fasse un cône, quoi, ou une pyramide. Donc il faudra qu'il rétrécisse la partie qui est haute, il faudra qu'elle soit moins large que la base, d'accord, pour ne pas tomber, pour pas que l'édifice s'effondre. Or, à Kadosh Baruch Hu, en fait, il crée le ciel. Et il crée le ciel tel qu'il l'avait eu dans la pensée, le Marchaba, et la terre telle qu'il l'a eu dans la pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème qu'éventuellement ça ne sera pas la bonne, ça ne sera pas bien construit, ça ne sera pas bien équilibré, etc. Évidemment, ce qu'Hachem fait, il le fait exactement comme il veut que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il y a une idée justement que... Enfin, comment est-ce qu'on peut entendre que les choses sont exactement comme elles ont été pensées? Ça veut dire qu'en réalité, au moment où elles sont pensées, elles existent déjà. La différence entre Hachem et les hommes, c'est que chez nous, il y a deux temps. On pense quelque chose, puis ensuite on réalise éventuellement. On y arrive ou on n'y arrive pas, mais même quand on y arrive, ça a d'abord été pensé, puis ensuite réalisé. Chez Akadosh Baruch Hu, quand Hachem dit « Vayhi Or », par exemple, c'est pas qu'il y a d'abord une parole que la lumière soit, et ensuite la lumière va être. C'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Quand Hachem a dit que la lumière soit, elle était là. Elle est là. Il n'y a pas de... Ça se passe pas en deux temps. C'est pas qu'Hachem a... Il n'y a rien qui empêche la parole d'Hachem d'être immédiatement créatrice. C'est pas qu'ensuite il faut une deuxième étape pour créer. On n'a pas besoin de ça. Hachem n'a pas besoin de ça. Les choses sont directement créées. Même s'il les pense, elles sont là. C'est ce qu'on dit dans le Navi Yeshaya. On parle là-bas des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Alors, c'est tout un problème, parce que c'est quoi cette nouveauté, etc. On a presque l'impression qu'on est en train de lire un truc chrétien ou un machin avec les. Etc. C'est nouveau, etc. Alors, ici, il vient de dire pas du tout. Au moment de la création, ces cieux qui apparaîtront comme nouveaux au temps de. Il faudra expliquer ce que c'est, mais au temps du Navi Yeshaya, qui dit que. Pas son temps, mais au temps dont il parle, c'est-à-dire à la fin des temps, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, mais ça a été créé au moment de la création. Au moment de la création, il y a eu, si vous voulez, deux niveaux de cieux qui ont été créés, deux niveaux de terre qui ont été créés. Et ensuite, elles vont se réaliser, le premier niveau qui s'est réalisé immédiatement, et puis il y a un deuxième niveau qui va se réaliser plus tard. Il dit comme ça. De même que les cieux nouveaux et la terre nouvelle, le texte ne dit pas que ce sera des cieux nouveaux, mais seulement la terre nouvelle. Donc c'est cette terre-là qui était, si on dit là, ça veut dire, le Hei Ayedia, il fait référence à quelque chose qui existe déjà. Par exemple, quand on dit Yom HaShishi, d'accord, on fait référence à un autre jour, sixième jour, qui est déjà. Qui est là en même temps, mais qui va se concrétiser au moment de Matan Torah. C'est le fameux 6 Sivan. D'accord? C'est ce même 6, c'est ce même sixième jour. Le sixième jour de la création, il fait référence à un sixième qui est déjà bien connu, c'est à savoir qui est le 6 Sivan, qui lui n'est pas encore là du tout. Au moment de la création du monde, le Sixth Sivan, il n'est pas là. Sixth Sivan, c'est le jour du Matan Torah.
Mais nous, quand on dit Yom HaShishi...
Alors, on fait référence. Pourquoi Yom HaShishi? Pour nous dire qu'effectivement, ce sixième jour-là, il y en a même une dracha qui va dire que ce sixième jour, qui est un jour de création, c'est une création provisoire. Comme le drachi rapporte, si les Bnei Israël, Hachem dit comme ça, si les Bnei Israël acceptent la Torah, le 6 Sivan, alors ce que je crée maintenant, ce sixième jour, ce sera créé. Mais s'ils n'acceptaient pas, je ramène tout ça au chaos. Donc la création du sixième jour du Shabbat, comme sixième jour par référence à la création, c'est quelque chose qui n'aura été validé, scellé, si vous voulez, définitivement, que au 6 Sivan, du Matan Torah. Si les ministres n'acceptent pas la Torah, je ramène le monde dans son chaos, c'est-à-dire ce sixième jour où les hommes ont été créés, etc., qui est l'achèvement quasiment de la période de création du monde. Tout ça, ça n'existera pas, ça n'aura jamais existé, on pourrait dire, si jamais les ministres n'acceptaient pas la Torah le jour où elle leur sera proposée. Donc, ça veut dire que dès le départ, on pourrait presque dire la vraie terre, le vrai ciel, c'est la terre à venir, le ciel à venir. En attendant, on a une terre, on a un ciel, etc., mais qui ne sont que, d'une certaine manière, on pourrait presque dire des approximations de ce que sera la terre et le ciel à ce moment-là, à la fin des temps. On verra ce que c'est vraiment qu'un ciel, ce que c'est vraiment la terre. Bon, ça veut dire que bien que ce soit dans les paroles du Navi Yeshaya, lui, il fait référence à Ha'aretz HaChadasha, la terre, la nouvelle. Mais ça veut dire celle qui a été créée, mais il y en a eu deux de créées en quelque sorte, ou une approximation qui a été créée, qui est la terre que nous avons, le ciel que nous avons. C'est une approximation du vrai ciel et de la vraie terre. C'est pas que c'est pas la terre, mais c'est la terre, le ciel que nous sommes capables d'avoir. Pour moi, j'appelle ça de l'approximation, mais il y a peut-être un meilleur terme, je ne sais pas.
Par rapport, je reviens juste à Yom HaShishis, quand nous, il faut qu'on ait quand même conscience que enfin, dans l'idée quand même que ça,
c'est aussi jour,
c'est le Sissivan.
Oui, c'est ce sixième jour. Il a été validé parce qu'on a accepté la Torah.
Du Sissivan.
Le Sissivan. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un Yom HaShishi au sens, c'est pas un sixième jour de la semaine. C'était ça, pas un vendredi, quoi, si vous voulez, le 6 Sivan. Ouais. C'était le 6 du mois de Sivan. C'est un sixième jour du mois de Sivan. C'est pas le sixième jour de la semaine.
C'est pas le sixième jour de notre semaine. C'est pas de cette semaine-là.
Même d'aucune semaine, parce qu'on sait pas
c'est
du tout.
Le Yom HaShishi du 6 Sivan.
Le Yom HaShishi, c'était, si ça se trouve, c'était Shabbat. Le 6 Sivan. Si ça se trouve, c'était Shabbat. C'est pas Yom HaShishi, c'était pas vendredi, mais peut-être. C'était déjà Shabbat. Ok, bon, on a traduit à peu près ce qu'il y a dans ce paragraphe. Et maintenant, on voudrait bien savoir, ok, qu'est-ce qu'il nous dit l'Arabe Shimon ? Pourquoi ça vient ici maintenant ? On est en train de parler de Bereshit. Qu'est-ce que ça a à voir avec Bereshit ? Alors, le lien avec Bereshit, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire, on a avancé un petit peu dans le verset. On a fait Bereshit, Bara, Elohim, et maintenant on est sur Et Hashamayim Ve'et Haaretz. Alors, pour l'instant, on ne s'occupe pas des Et. On verra, on leur réglera leur compte un peu plus tard. Donc, pour l'instant, on va s'occuper de Shamayim Ve'et Haaretz. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai dit quelque chose qui a à voir justement avec ces cieux et cette terre. Mais il commence par quelque chose de complètement différent. Alors évidemment, ce n'est pas différent, mais il faut arriver à comprendre quel est le lien entre ce premier problème ici de profanation du nom. Et donc, en fait, c'est... La terminologie est un peu Talmud Lomar Karban Hashem Vare Dvarim Kal Bachomer Uma Imishu Atid Leagdish. Pour quelqu'un qui, dans le futur, il va être Magdish, il va sanctifier, il va apporter un Korban, Amra Torah Lo Yachul Shem Shamaim Leakriv. C'est étrange quand même, non? Oui, c'est tout à fait comme ça. C'est très étrange. Lo yachul shem shamayim lehakriv. Lehakriv, ici ça veut dire on ne veut pas qu'il proclame le nom, qu'il profane le nom d'Hachem quand il va approcher un korban. Le texte ici, il a l'air de dire que même quand il apporte son korban et qu'il se permet de dire l'Hachem korban, au lieu de dire le korban l'Hachem, il y a une dimension de profanation du nom divin au moment où il apporte son korban, y compris lorsque le korban est approché, c'est-à-dire y compris lorsque son intention s'est réalisée. Alors que nous, ce qu'on a vu, c'est quand est-ce qu'il y a, profanation ? Ben, quand on n'arriverait pas à finir la phrase, ou quand on n'approcherait pas le korban. On aurait dit Hachem, l'Hachem, et puis et c'est tout. Alors on aurait dit le Shem Hachem en vain. Alors ici, le texte a l'air de dire qu'effectivement, c'est sûr que ça, c'est une profanation, mais du coup, il y a une dimension de profanation, même quand ça se réalise. C'est-à-dire, même quand ça marche bien, même quand ça a fonctionné, il y a qu'aussi... Le texte est très fort, mais ils l'ont bien rendu en français, d'ailleurs. si à qui s'apprêtait à sanctifier la Torah ordonne que le nom céleste ne sera pas profané pour un sacrifice, qui va rester même quand ça réussit, il reste aussi quelque chose de négatif. Quelqu'un fait quelque chose qui est négatif. Si ça réussit, bon, alors on va dire du bien de lui. Mais il restera toujours le côté négatif par lequel il a passé. Si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui il fait quelque chose de qui était très dangereux. Mais quand ça réussit, alors on va dire, ok, c'est super. D'accord, il a... Imaginez, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Mais quelqu'un se met en danger et il sauve la vie de quelqu'un. Alors, c'est des louanges. Et on va oublier qu'il s'est mis en danger. Qu'il n'avait pas le droit de le faire éventuellement. On n'a peut-être pas le droit de le faire. D'accord. Imaginez quelqu'un, il va aller, je sais pas, guérir les gens du virus, là. Il va se mettre en danger. Mais quand il les guérit et si tout va bien pour lui, alors bon, on va oublier complètement qu'il s'est mis en danger. On va lui tresser des louanges. Il y a une situation comme celle-là. C'est un peu
tard. Alors dans le dire, parce que c'est nous qui devons nous rapprocher d'Hachem.
Non, mais la situation, c'est celle du nazir. Dans le nazir, la Gemara elle dit, le nazir c'est quelqu'un qui, dans le processus de la naziroute, il s'interdit le vin. Et la Gemara elle dit que on n'a pas le droit de s'interdire le quoi que ce soit. La Torah t'a mis déjà assez d'interdits, t'as pas besoin d'en rajouter. Et celui qui se prive de quelque chose, il est appelé choté. Celui qui jeûne, il est appelé choté. Celui qui se prive de boire, il est appelé choté, fautif. Mais quand la naziroute a marché, il est appelé kadosh, il est appelé saint. Et donc ça le c'est pour ça que il reste un, il est kadosh, mais il reste quand même une espèce de trace de la faute, quoi. Il est arrivé à la kdoucha par un chemin qu'il fallait pas emprunter en réalité. Tu t'es privé de quelque chose, bon, Hachem il t'a mis dans un monde dans lequel il y a du vin, tu peux te réjouir, etc. Et toi tu t'es privé de ce vin, tu t'es privé de quelque chose qu'Hachem t'a donné, tu dois donner des comptes, comme on dit, on donne des comptes sur tous les biens qu'Hachem a mis à notre disposition et dont on n'a pas voulu profiter, ne serait-ce que juste le goûter, quoi, à la limite, pour pouvoir louer Hachem de nous avoir mis tout ça à disposition. Et là, il est considéré comme roté, mais aussi kadosh. Alors là, toi, tu voudrais dire qu'effectivement, puisqu'il y a une possibilité qui n'arrive pas au bout...
De sa phase.
D'accord. Pardon ?
De
la phase, oui. Alors même quand il arrive au bout, d'avoir passé par ce stade d'une possibilité qui n'arrive pas au bout, ça entache la chose. C'est-à-dire, c'est très bien, c'est un corban formidable, etc. Mais tu as passé par une profanation du nom divin, parce que la possibilité d'une profanation, c'est une profanation.
En ayant dit le mot
de la chaîne en premier. La possibilité d'une. C'est pas la possibilité d'une île, c'est la possibilité d'une profanation, c'est une profanation. Et la Torah l'a prévu, c'est pour ça qu'elle t'a dit, « Dis Korban Hachem, comme ça tu n'as pas de problème. »
Donc une personne qui serait mise en danger, et là, on dit, « Est-ce qu'il ne fallait pas faire ?» Il faut comprendre que ce soit différent du désir.
Oui, là c'est, je dis pas, j'ai seulement apporté une preuve qu'il peut y avoir cette ambiguïté-là.
Mais la
puisqu'elle existe, alors je dis que même si, effectivement, il ne s'est rien passé. Mais le fait même d'avoir... finalement, le nazir, quand il s'est privé, bon, ça lui a permis de s'élever, à la limite, on pourrait dire. Il ne s'est rien passé. Il ne lui manque pas de simcha, puisqu'il est arrivé à la kdoucha. On ne peut pas arriver à la kdoucha s'il y avait un manque de simcha. Donc, le fait de ne pas avoir bu de vin qui pouvait amener à la simcha, visiblement, ça a été compensé par... je ne sais pas, la simcha qu'il avait de vouloir s'élever, etc., et de pouvoir s'élever par le biais de la Nézirout. Mais bon, pour revenir, pour coller à notre texte ici, le fait d'en passer par une situation dans laquelle il aurait pu y avoir profanation effective, c'est déjà une profanation. C'est tel, le Shem Hashem, c'est quelque chose de tellement effrayant d'une certaine manière que tu ne peux pas envisager, même de très loin, que finalement ce Shem Hashem il aura été prononcé en vain. Même si c'est rachok, et même si finalement ça n'a pas eu lieu, tout ce que tu veux. Ok, mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire, tu as passé par la profanation. C'est ça, ça c'est le chidouche de Rabbi Shimon Bar Yochai ici. Alors, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la suite? D'accord, on a appris ça, ok. On voit ici que... Alors, on peut dire, j'ai un peu le même problème. Si vous voulez, quand on parle de cieux nouveaux et de terre nouvelle, on est en contradiction avec ce que la Torah dit, que voilà, il n'y aura pas de nouveau, on ne va pas recommencer, il n'y aura pas de nouveau. Le nouveau, il est obligatoirement inclus dès le départ, ce n'est pas une vraie nouveauté comme on pourrait penser. C'est pour ça que c'est marqué, il y a ce « hé » qui nous... « Ha aretz ha chadasha » pour dire que cette terre-là, c'est la même, c'est la terre de la création. C'est pas une nouvelle terre, une terre radicalement nouvelle, en quelque sorte, qui n'aurait jamais eu lieu.
Et peut-être que c'est la terre de la création au temps d'Adam, c'est-à-dire qu'elle a existé réellement, elle va revenir, elle est
non, ça, c'est pas dit ça, ça pourrait être, mais pour l'instant c'est ce que tu dis, mais oui, le texte il dit pas ça.
Non, je veux dire, pour dire...
Oui, on aurait pu imaginer, mais on dit ça sur la lumière, mais pas sur la terre. D'accord. Sur la lumière, que Gnouza, que la mise de côté, etc. Mais c'est pas dit sur la terre et le ciel. Et donc c'est ça l'idée. Alors, le lien c'est quoi exactement? Comment est-ce que vous l'entendez? Avec ce qu'on a dit sur le Corban, c'est-à-dire que il dit, quand Hachem dit voilà, je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, c'est le Navi qui cite Hachem. Le Navi Ishayahu, Isaïe cite Hachem. Que Hachem dit voilà, je vais créer une terre nouvelle, un cieux nouveau. Et donc, ici, il y a une contradiction, il y a une espèce de profanation de ce que la Torah a dit que. Il n'y aura pas de nouvelle Torah et de nouveaux, etc. Alors, effectivement, il faut entendre, pour que ce ne soit pas en contradiction, il faut entendre que il n'y avait jamais... Dès le départ, c'était inclus, en fait. Et à ce moment-là, on n'aura pas de problème. Parce que si même tu dis que c'est prévu que ça allait changer... Alors tu es déjà dans la profanation, comme dedans. Il faut dire qu'elle était là dès le début. C'est pas qu'il était prévu qu'il y aurait une nouvelle, mais que c'est la même terre. C'est deux occurrences de la même terre, disons. Voilà ce que je crois qu'on peut dire ici sur cet enseignement.
Je comprends toujours pas. C'est quoi cette nouvelle, cette nouvelle terre? Même si elles ont été
c'est au temps messianique, oui. Au temps messianique, on aura cette nouveauté. La terre, elle aura sa vraie dimension, si tu veux. La terre, elle ne donne pas du tout ce qu'elle est capable de donner. Aujourd'hui, la terre, elle ne donne que des fameuses ronces, etc., qui ont été annoncées à Adam Arishon. La terre, elle n'aurait pas... Normalement, si Adam n'avait pas fauté, la terre, elle produisait des croissants et qu'est-ce que tu voulais, exactement, je ne me rappelle plus. De Baba Ourom, d'accord, va pour le Baba Ourom. Bon, enfin bref, chacun, les Glouskaot, c'est écrit, donc la terre, elle prône, d'une certaine manière, à la limite, on pourrait presque dire que dans la bracha que nous faisons sur le pain, quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé une terre qui est, il est motzi, Lechem minaretz, d'accord, la terre, elle ne produit pas le pain. Elle produit du blé, puis encore beaucoup de boulot jusqu'à ce qu'on arrive au pain. Mais si on dit qu'en vérité, cette terre, la terre telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la terre maudite. D'accord ? La terre non maudite, elle, pourquoi pas, beaucoup de même qui fait pousser une graine, il peut aussi faire pousser du pain. Hein.
C'est l'arbre de
l'Union d'Éden. L'arbre fruitier et l'arbre fruit, oui. On pourrait manger l'arbre lui-même, on n'a pas besoin d'attendre que le fruit soit produit. Donc ici aussi, on a cette idée-là. Cette terre-là, qui est une terre...
Alors, la terre, d'accord, mais qu'est-ce que pourrait être ces nouveaux cieux-là ? Les nouveaux cieux, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Ben, ce seraient des cieux qui donneraient la pluie seulement en son temps. Quand on dit dans Kriyat Shema, que si vous faites ce qu'il faut, vous aurez la pluie en son temps, c'est-à-dire que chaque goutte tombera en temps voulu et en lieu voulu, ça, c'est les cieux qui donneraient, les cieux, ils vont donner la terre, la pluie, oui.
Vous voyez que
c'est déjà pas mal, je peux voir aussi autre chose, mais pour l'instant, je vois ce qui est écrit, que ce qu'on attend, la bracha, c'est Kshamim Beitam. Donc, au moins ça, il y a peut-être d'autres choses, mais peut-être c'est tout est du même style. Tout ce qui vient du ciel, on pourrait imaginer aussi que la chaleur, la température sera exactement la bonne température à chaque moment, pour chaque endroit. Et nous dire que ça, c'est pas qu'il y aura un nouveau ciel, etc. C'est prévu d'emblée, simplement. C'est pour ça que je dis, c'est une forme d'approximation. La terre que nous avons est une approximation. On vit dans une approximation. Mais la question de savoir si c'est un rêve, etc. Je sais pas un rêve, mais... Ou bien c'est peut-être un rêve que l'impression qu'on a de vivre dans cette approximation, peut-être c'est seulement un rêve. Qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu fait que les choses sont comme elles doivent être, je ne sais pas.
J'arrive pas à recoller, mais je suis un peu perdu. J'arrive pas à recoller par rapport à ce que vous avez dit au début sur dire Hachem avant le Corban et le Corban avant Hachem. Comment on est passé de ça à ce qu'on vient de dire?
Ce qu'on a dit pour le Corban, on a dit que il y a un problème de profanation.
Oui.
C'est-à-dire, et ce problème de profanation, il est là, même si tout se passe bien en quelque sorte. Ici, il y aurait aussi un problème de profanation à présenter la terre.